Salut à tous, c'est Pierre, vous êtes bien sur Envergure. Nouvel épisode aujourd'hui, 5 Star. Au programme, on va plonger au fin fond du basket dans une ligue qui bientôt, alléluia, n'existera plus. La G-League, enfin, la ligue existera encore, l'équipe n'existera plus, c'est l'Ignite. Et heureusement, parce que ça fut un vrai calvaire, et c'est pas Manu qui est avec moi et Julien qui vont dire le contraire. Salut messieurs.
Salut Pierre.
Bonjour.
Aujourd'hui, donc, on va parler d'un jeune homme qui est annoncé assez haut depuis très longtemps. C'est notre ami Ron Holland. Ron Holland, donc, qui était en Ignite cette année, qui a montré quelques petites choses. On va y revenir. Pour l'instant, Manu, je vais te lancer, comme on dit. Dis-nous comment ça jouait un petit peu l'Ignite. Comment ça ne gagnait pas?
Alors, l'Ignite, une année très compliquée, avec un bilan exceptionnel de 2 victoires pour 32 défaites. Donc voilà, donc composé de joueurs à la fois prospects et à la fois vétérans. Donc cette année, donc il y avait Ron Holland, il y avait aussi Matas Buzelis, l'Espagnol Issan Almanza, Tyler Smith, Tate Pink, meneur, et d'autres joueurs plus vétérans avec Norris Cole, notamment l'ancien de l'Asvel, et c'est des joueurs comme ça qu'on de la bouteille, qu'on joue des matchs NBA et qui étaient là pour normalement couver un peu ces jeunes loups. Sauf que bah, ça n'a pas trop répondu aux attentes, parce que chacun voulait tirer un peu la couverture sur soi, donc c'est devenu très très compliqué rapidement. Et souvent sur ces prospects-là, Ron Holland, par exemple, commençait toujours titulaire quand il jouait. Et après, il jouait quasiment la moitié du match comme ça, par séquence, 6 minutes, 6 minutes, moitié de carton à peu près. Il joue un moins de 20 matchs cette année. Il termine pas la saison à cause d'une blessure au pouce de mémoire, donc qui lui fait manquer quasiment la moitié de la saison, 10-15 matchs. Donc ce qui a pour l'instant pas trop d'impact sur sa cote. Il est toujours dans le top 10, top 15 chez les Américains en tout cas. Donc voilà, c'est une saison un peu galère pour tout le monde. Et je pense que bah, finalement, ça a sonné un peu le glas de l'équipe, comme tu le disais au début, parce que la NBA a annoncé qu'après 4 saisons, il mettait un terme à cette aventure, qui était à la base assez intéressante, sauf que ça n'a jamais trop pris dans le système, en fait.
Exactement, ça n'a pas trop pris. En plus de ça, au collège basketball, ils se sont mis à pouvoir toucher de l'argent, et plutôt assez correctement, donc une vraie concurrence aussi de ce côté-là. Donc, tout ça mélangé, peut-être que ça fait aussi le fait que l'Ignite va s'arrêter. On va parler donc de Ron Holland. Je vais vous donner, comme d'habitude, les stats brutes du jeune homme. 19,5 points par match, 6,7 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, moins d'un compte par match, 3 balles perdues et 3 fautes. Voilà, grosso modo. Et au niveau des pourcentages, pardon, ça fait 44% au général, 75% au lancer franc et un tout petit 24% à 3 points. Manu, dis-moi, pourquoi les scouts ont regardé Ron Holland?
Bah, annoncé comme un prospect 5 étoiles à la fin de son cursus à Duncanville, au Texas, chez lui au Texas. Où il a été assez intéressant. C'est lui qui était le leader de l'équipe sur les dernières années. Il les emmène au titre d'État. Il joue aussi le Geico National, donc c'est le tournoi final avec tous les meilleurs programmes lycéens du pays. Il a été aussi très très bon avec Team USA, donc il est médaille d'or avec les U16 Amérique en 2021 et médaille d'or au championnat du monde U17 à Malaga en Espagne, où j'étais, donc j'ai pu le voir en vrai. Et puis c'est un mec qui a toujours performé comme ça de façon régulière en fait quand il était en jeune. Et là, il s'est un peu pris un mur, je trouve. Mais c'est de par ce passif-là de gros talent en jeune qu'il est regardé et annoncé très très haut.
Qu'est-ce qui marque le plus chez lui dans son jeu? Quelle est la qualité première quand on voit jouer Renaud Land? Qu'est-ce qu'on voit directement? Quelle est l'évidence en fait pour ce
Moi,
poste?
chez lui, ce que j'aime le plus, c'est son côté slasher, où il est très très bon notamment sur les phases d'open court en transition. Même sur phases arrêtées, on a vu cette année par Flash qu'il a été très très intéressant. Une fois qu'il a passé son corps sur le premier pas, il est quasiment inarrêtable par sa vitesse d'exécution et aussi sa capacité à très très bien finir près du cercle. Est capable de, voilà, de désaxer, de battre le défenseur, que ce soit au sol ou en l'air, c'était vraiment intéressant. Pour moi, c'est son gros point fort aujourd'hui.
Julien, même question. On va rappeler que il est né en juillet 2005, notre ami Renaud Land, et qui fait 2,03 m. Enfin, c'est ce qui est annoncé, avec 2,08 m d'envergure pour 93 kilos.
Oui, il faut présenter son physique parce que ça fait partie quand même de ses qualités. C'est
Exactement.
un ailier. Alors, moi, j'avais noté grand, mais il y a un point d'interrogation sur la taille. Donc, c'est à mettre entre guillemets, peut-être. Grand, c'est un athlète très vertical. Il faut en parler quand même. Enfin, très vertical. C'est un athlète vertical qui va très vite, comme le petit Manu, quand il se déplace horizontalement. Et qui a une vitesse et une explosivité qui est assez remarquable quand il est lancé. Du coup, ses qualités physiques, ça le rend polyvalent. Enfin, polyvalent, ça le rend polyvalent en attaque et en défense. Donc, pour continuer sur l'attaque, c'est vrai que c'est un slasher assez fort. Il agresse beaucoup le cercle grâce à ses qualités athlétiques et de vitesse. Et puis, je pense qu'on peut parler quand même de sa qualité au contact, quoi. Quand il finit ses drives, il est capable d'absorber les contacts et de finir. Et ça, c'est pas mal, quoi. Et puis, en fait, alors, ces qualités-là, au niveau de la projection, ça permet d'imaginer que ça va être un joueur qui pourrait. S'il arrive à shooter, parce qu'il va falloir qu'on reparle de son foot, s'il arrive à shooter à 3, qui va pouvoir attaquer les close-out, qui va être un fort joueur potentiellement en cut aussi, ou sur end-off, en tout cas, si l'attaque lui permet de se lancer, ouais, c'est un joueur qui est fort en pénétration.
Moi, j'avais noté dans les qualités aussi un truc que j'aime assez bien chez lui, c'est le côté moteur, très energizer. Est-ce que ça, c'est un truc qui est pour vous aussi assez prédominant dans son jeu, Manu?
Bah, moi, ça, je l'ai plus vu avec les jeunes, avec Team USA, notamment sur le U17, où effectivement, il était très, très en train, très vers l'attaque, très, très en train de supporter, voilà, toujours actif, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. C'était vraiment intéressant de le voir comme ça, effectivement. Après, je trouve que enfin, à l'écran en tout cas, ça se voit un peu moins. Donc là, c'est notre capacité à pas être présent dans la salle qui génère un peu cette analyse, mais je trouve que ça s'est un peu moins vu au niveau pro.
Alors,
Après, moi, j'ai vu.
moi je l'ai pas, ouais, pardon, moi je l'ai pas vu en vrai, dommage. Mais sur l'écran, moi j'ai eu la même impression que Pierre. J'ai noté que c'était un joueur qui était dynamique en fait, dans les deux côtés du terrain. Alors c'est pas tout le temps. Il a des phases où il est très dynamique, en attaque et en défense. C'est vrai que parfois on sent un petit peu de relâchement, quoi.
Moi, je l'ai vu, c'est sur certains flashs où on sent que vraiment il s'assure vraiment que le ballon rentre dans le panier et qu'il y va, il va au bon offensif, il se bat vraiment. Enfin, on a l'impression d'un joueur qui en tout cas, sur les phases offensives, est déterminé à mettre le ballon dans le panier. Maintenant, je vous propose, donc ça, c'est pour ses grosses qualités. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Comme tu l'as dit, Manu, sa cote ne baisse pas, mais c'est peut-être pas forcément de son fait, mais peut-être aussi du fait de la QV qui est quand même assez spéciale. Ça, c'est un grand débat qu'on pourrait tout savoir. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter si vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout quand vous allez écouter le pod. On va partir sur les points à améliorer parce qu'on a dit c'est un superbe athlète, donc un moteur plutôt correct aussi, un joueur très fort en open space. Qu'est-ce qu'il a à améliorer et ce qui fait que bah, pour l'instant, on n'est pas plus en extase que ça, Manu?
Moi, la
Merci.
chose première, c'est le tir. Comme tu l'as dit, 24% à 3 points, c'est trop peu. Même le 75% au lancer franc pour un joueur de sa position et de sa taille, c'est pas suffisant. Même si ça, enfin, c'est limite, quoi. Vraiment très, très limite. Donc, il y a ça, cette constance au tir, cette réussite. Donc, je pense que voilà, ça viendra parce que cette année, il était un peu dans le show-off, mais dans le fait qu'il fallait qu'il se le montre. Et du coup, des fois, il forçait vraiment trop ce qu'il faisait. Ce qui est un point noir parce que voilà, tu es censé le jouer naturellement, même si tu dois te montrer, tu es quand même censé rentrer dans un moule d'équipe, dans un jeu, dans un tout ça pour justement te montrer efficacement. Sauf que lui, il était un peu trop, des fois, première option et il y a des choses qu'il ne faisait pas et ça le pénalisait sur ses pourcentages parce que c'était des shoots des fois très, très contestés, beaucoup trop forcés et du coup qui rentraient quasiment jamais. Et l'autre point que je dirais à améliorer, c'est sa initiation pour les autres. Ou par flash, on l'a vu, il était capable des fois d'initier le pick and roll, pick and pop, et ça c'était super intéressant, parce que c'était pour moi, je trouve, beaucoup trop rare. Et en fait, si, le fait qu'il soit vraiment à moins de 2 mètres, comme on a pu entendre, et pas à 2 mètres 03, 04, comme on peut voir sur ses fiches sur Internet, bah, ça va être quelque chose qu'il va être obligé d'apprendre et de faire plus constamment en NBA, parce qu'autrement, s'il est vraiment que sur du slash, ça va être beaucoup trop limité et assez facile à défendre finalement. Même sur une NBA qui est très spacing, qui est très écartée, où le chemin du cercle est souvent ouvert, s'il fait que ça et rien à côté, ça peut être très délicat, je trouve.
Ouais, complètement. Pour aller dans ton sens, Manu, comme tu l'as dit, 26% d'usage rate, donc ce qui est assez conséquent pour un ailier. Donc ça montre aussi qu'il a pas mal joué tous les ballons, ce garçon. Julien, sur ces choses à travailler pour Ron Holland.
Ouais, avant de partir sur la défense, on peut souligner qu'au niveau du jeu collectif, la création pour les autres, il a quand même un ratio passe décisive. Turnover qui est un peu pourri, quoi. Alors, d'où ça vient, c'est des passes un petit peu hasardeuses quand il fait du drive and kick, peut-être. Pourtant, il n'est pas un mauvais joueur à la passe au niveau de la connexion. C'est un gars qui arrive à accélérer le jeu, enfin, ou alors à donner de la continuité au jeu quand il faut le faire avec des passes, souvent pour des shooters à 3 points. Il n'est pas mauvais, mais il y a des pertes de balles souvent qui sont dues à je sais pas, un petit relâchement au niveau de la passe. Bon, moi, j'en ai beaucoup vu sur ce que j'ai vu des matchs avec l'Ignite. C'était souvent en bout de drive and kick ou de balancer des passes un peu casse-croûte. Et sinon, autre point amélioré, je pense qu'on peut parler un petit peu de la défense, parce que c'est quand même, on a donné ces mensurations approximatives, c'est quand même un athlète et. Ça le projette aussi comme un bon défenseur. En tout cas, il a des outils. Et il y a des choses que j'aime beaucoup, moi, dans sa défense. Il est beaucoup sur les lignes de passe. Il a 2,5 steals par match. C'est un gars qui est dynamique dans ce sens-là. On en parlait tout à l'heure. Moi, je trouve qu'il est pas mal dans le off-ball. Au niveau on-ball, il est capable de tenir son gars quand même. Et ce qui était intéressant quand même dans les différents contextes qu'on a pu voir, soit au lycée avec les USA ou United, c'est que on l'a vu défendre sur plein de types de joueurs quand même, parce que en finale contre l'Espagne au U17, il défend 2 fois ou 3 fois sur les pivots. Et bon, c'est du 17, je dis pas qu'il va défendre sur des pivots en NBA, mais ça montre le fait qu'il est capable de défendre autant le point of attack que des plus grands, des plus costauds. Mais il y a un mais, c'est qu'il a des sauts de concentration un petit peu énormes. Il oublie des cuts, il y a des gars qui passent dans son dos, il est parfois un petit peu relâché sur son gars, il est parfois très attiré par la balle, mais ça, Manu, tu dis souvent, c'est un truc de jeunesse, quoi. Il est aspiré par le ballon et du coup, quand il veut défendre son gars à 3 points, et parfois il est en retard, bien sûr, ça lui joue pas mal de tours et je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir observer pour plus tard pour qu'il soit plus efficace en défense, parce que je pense qu'on va en reparler, mais ça va être aussi une des clés pour qu'il reste sur un terrain.
Manu, sur la défense de Ronaland.
Moi, ce que j'aime particulièrement, ça rejoint un peu ce que dit Julien sur les steals, c'est sa défense sans ballon. Je trouve qu'il est vraiment intéressant de ce point de vue-là, où il est actif sur les lignes de passe, il a toujours le regard qui navigue entre ballon et son joueur, et sur les aides défensives aussi. Il est très très bon là-dessus, où il a cette capacité d'aller gêner la réception du ballon ou aller au contre. C'est vraiment ça qui m'a marqué chez lui en défense, c'est ce côté sans ballon. Parce que on-ball, moi je l'ai, enfin, sur un, en contre un, je l'ai trouvé un peu moins intéressant, même si je rejoins Julien sur sa capacité à défendre plusieurs postes, notamment les meneurs et arrière-ailier. C'est parce que sa latéralité reste intéressante. Elle n'est pas toujours clean, mais elle reste intéressante. En fait, il a les outils. Il a tous les outils. Maintenant, la réponse, elle est en haut. Si tous les fils sont connectés et qu'il ait envie, parce que la défense, c'est avant tout l'envie, ça peut devenir quelque chose. Si c'est des prises de décision un peu trop pour lui et pas concentré sur l'équipe, ça peut être très très vite compliqué.
Justement, on va parler de un petit peu son attitude, son mental. Tu l'as un peu esquissé tout à l'heure sur les équipes jeunes américaines, Manu. Comment un garçon qui a beaucoup perdu, qui a connu, enfin cette année en tout cas, qu'est-ce qu'il dégage sur un terrain? Est-ce que c'est quelqu'un qui, on a l'impression qu'il était un peu accablé sur le faible échantillon qu'on a, hein, parce que tu l'as dit, il a fait que la moitié de la saison de Ignite. Quel genre de joueur c'est?
Bah, déjà, je vais appuyer sur ton point sur le fait qu'on a été limité en fait en termes de vision, de film. Parce que la G-League Ignite, il n'y a eu que quelques matchs qui étaient diffusés sur YouTube. Il faut aller les chercher au fin fond de leur site internet. Du coup, on n'a pas eu accès à énormément de matchs. C'est assez compliqué de répondre à ça. Donc, moi, comme j'ai eu l'opportunité de le voir en vrai il y a quelques temps, je vais plus me baser là-dessus. Ou ça rejoint un peu ce que j'ai dit au début, c'est vraiment un joueur qui était toujours actif, très positif, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Bon, il gagnait, donc c'était un autre, tout autre contexte. Mais c'était pas. Et en fait, le contexte-là, il était assez aussi intéressant parce qu'il n'était pas l'option numéro une de cette équipe-là aux États-Unis. Au U17. Donc c'était vraiment une option d'attaque, mais c'était pas du tout. Enfin, c'était très très bien coaché aussi. Donc chacun a trouvé son rôle, mais juste pour vous dire les joueurs qu'il y avait: Cooper Flagg, Sean Stewart qui est aujourd'hui à Duke, Hassan Newell va signer à Georgia qui joue à Montverde, donc l'une des meilleures équipes du pays aux États-Unis. Ian Jackson, qui est l'un des tout meilleurs arrières des États-Unis, qui va signer à UNC. DJ Wagner, qui est cette année à Kentucky. Carter Knox, qui est au Overtime Elite, le frère de Kevin Knox. Donc voilà, c'est des noms. Kua Pitt, David Castillo, Jeremy Fears. C'est des noms qu'on va réentendre très prochainement. Et en fait, il s'est très très bien fondu. Très très bien fondu dans ce moule-là, en fait, et il performait, en fait, tout simplement. Ce qui était un peu moins le cas au Ignite, parce qu'il était devenu l'option numéro une d'une équipe dans laquelle il doit se montrer, il doit être l'option numéro une, sauf que finalement, c'est pas son rôle. Il n'a pas encore le talent, ni la capacité, ni l'aura pour être l'option du numéro une d'une équipe professionnelle. Peut-être qu'il le sera dans 5 ans. Je dis pas, mais pour l'instant, en tout cas, moi je le trouve malheureusement limité. Le rôle était trop grand pour lui, finalement.
Ouais, ce rôle U17, ça lui allait bien, puis ça justifie ce qu'on projetait sur lui, un two-way player en fait. Parce que très polyvalent en défense, on en a parlé, très polyvalent en attaque aussi, où voilà, parfois il a monté la balle, il aidait les meneurs à monter le ballon, il faisait des screens, il cutait, il a shooté à 3 points plutôt Alors, c'est pas extraordinaire, mais il a mis des gros shoots à 3 points aussi, notamment en finale. Donc, c'est un type qui, au U17, on comprend pourquoi on pouvait le projeter assez haut à la draft. C'est vrai que cette année, il fait mal, quoi. Et c'est, alors, le contexte y est sûrement pour quelque chose, quoi.
Est-ce qu'on ne peut pas y voir un motif d'espoir, entre guillemets? Justement, le fait que, bah, c'est peut-être pas une option une, mais on a quand même l'impression, dans ce que vous dites en tout cas, une espèce de garantie sur ce que ça peut être si c'est pas le cas, en fait, voir qu'il est capable de se fondre dans un collectif, d'accepter son rôle. Ça, c'est peut-être aussi pour les gens qui vont le drafter, quelque chose qui peut les rassurer. Et comment vous imaginez son adaptation à la NBA?
Bah, ce qui va être intéressant, je pense, déjà, les équipes vont s'en rendre compte quand ils l'auront face à eux, en interview et lors du combine et tout ça, l'ère des workouts, parce que ça peut faire monter et descendre des joueurs, cette affaire-là. Et en fait, là, ça va vraiment être son mindset. Est-ce que lui va comprendre, et voilà, entre guillemets, est-ce qu'il va comprendre qu'il n'est pas une option numéro une, comme on lui a demandé de l'être et demandé de prouver de l'être, et finalement voilà, ça a pas réussi. Donc est-ce qu'il va prendre cet échec comme un point positif et se dire ok, je suis pas ce gars-là, c'est peut-être un peu fort, mais se remettre en question pour se fondre, comme tu disais, dans un effectif qui a besoin de lui, que ce soit en attaque ou en défense, par des rôles. Ça va être là que
Ouais.
ça va être très intéressant de le voir, notamment sur la Summer League, rien que là. On va voir déjà s'il a compris ça.
Justement, là, j'ai lu un article cet après-midi avant le pod. Et alors, je sais pas si c'est parce que quand on s'envoie des articles, on a toujours l'impression que enfin, le discours est très très policé. On a l'impression de dire tout le temps les mêmes phrases. Et là, il disait justement que. Voilà, il était venu à l'Ignite avec le but d'être numéro un draft et que son but maintenant, c'était de fitter avec l'équipe qui allait le prendre. Tu vois? Donc il a déjà le discours de dire, tu vois, c'est une interview. Donc dans ce genre d'interview, tu dis, le gars va te dire, ouais, je vais tout faire pour être le premier, je vais tout casser. Tu vois, non, il dit pas ça. Il dit, ok, je suis venu. Et en fait, si je peux réaliser les deux rêves, c'est-à-dire être enfin, le meilleur joueur, le numéro un dans une équipe où je peux m'adapter, ben, je suis super heureux. Mais si je trouve une équipe où j'arrive à exprimer tout mon potentiel, ça va vraiment me faire plaisir. Donc, tu vois, je pense que ce processus, il a déjà commencé.
Bah, s'il arrive à mettre ça en place, enfin s'il le
Ouais.
comprend, déjà
Ouais.
c'est une preuve de maturité et c'est un vrai bon point.
Comment on imagine son rôle lors de son contrat rookie, surtout lors des premières années, messieurs?
Bah, je vais répéter ce que je dis à chaque podcast, le contexte. S'il tombe dans une équipe très bien structurée, je pense que c'est ça qu'il lui faut en fait. Il lui faut une équipe structurée où il a un rôle bien défini, comme c'était le cas avec Team USA, finalement. Et il sait ce qu'il doit faire. Paf, paf. Il peut dépasser les limites de ce rôle-là parce qu'il a montré qu'il avait le talent pour, des fois, prendre feu. Ou, à un moment, bah, vas-y, fais-toi plaisir sur ces moments-là. Mais je pense qu'il doit. Voilà, le but pour lui, ce sera vraiment de respecter le rôle qui va lui être demandé en attaque comme en défense. Après, je ne sais pas trop si ça répond à ta question, mais après, je ne le vois pas être. Pour moi, sur son année 1, ce sera, je pense, un joueur de seconde unit pour commencer, voire selon où il atterrit, des allers-retours en D-League pour encore être cadré un peu plus, qu'il apprenne ce rôle.
Et aussi sans doute pour travailler le tir qui est quand même un chantier assez conséquent au niveau de la réussite. On rappelle un 24% à
Ouais, ah, mais après, tu vois, le tir, pour moi, c'est l'une des choses les plus simples à travailler.
3. Ouais, je savais que tu allais dire ça.
Que, tu vois, en fait, des fois, c'est que des petits détails, juste de placement de doigts, de finition,
Et
de
puis en plus
comment
de ça,
le.
son tir n'a pas l'air cassé pour le coup, la
Ouais,
mécanique.
c'est ça, tu vois, la forme est assez correcte, c'est assez droit, c'est pas Lonzo Ball, tu vois.
Non, on part pas de trop loin.
où la mécanique est vraiment dégueu, le ballon il partait à gauche, il retournait à droite, enfin, tu vois, il y avait un truc chelou. Là, c'est vraiment, c'est assez clean. Donc, tu vois, ça, des fois, c'est, on n'a pas parlé, mais je sais que c'est un joueur qui te tient à cœur. C'est comme Melvin, agent ça. Où finalement, son tir, non, mais c'est un exemple qui est assez concret, je trouve. Son tir, il n'a jamais été finalement trop cassé à Melvin. Il a toujours tiré, que ce soit au Pôle France ou à ou SQBB. Sauf que des fois, en fait, c'était juste un place. Sa base à lui, c'était les placements de pieds. J'avais remarqué ça sur un NGT, où quand il mettait les pieds droits, vraiment qu'il arrivait à les poser droits, c'était filoche. Si ses pieds ils étaient un peu rapprochés au niveau de la pointe, il ne mettait jamais rien dedans. Et en fait, tu vois que ça, il l'a travaillé parce que c'est beaucoup mieux ça, sur ces deux années-là à Saint-Quentin. Et en fait, tu vois, bah, ça rentre. Donc, tu vois, c'est vraiment des détails, des fois, un peu à la con. Mais il faut qu'il arrive à mettre ça en place. Paf. Et s'il a cette mécanique-là, ça se trouve, ça va y aller. Je dis 75% au lancer. C'est pas dégueu, mais c'est pas ouf. Un joueur de sa taille et de son poste, il doit être à 85-90.
Julien, t'as pas entendu sur son rôle probable en tant que rookie?
Bah oui, c'est du off-ball de toute façon. Et puis, il faut qu'il saisisse les opportunités. Il a montré qu'il avait plein de cordes à son arc, qu'il y avait des prémices dans pas mal de choses. Vous avez parlé du shoot, c'est pas un trou noir avec le ballon. Il va falloir qu'il travaille aussi son dribble, sûrement, justement pour accompagner son côté slasher, là. Consolider son dribble, je pense que c'est quelque chose d'assez important. Et c'est un joueur qui... Moi, je pense que c'est un joueur qui peut faire son trou de différentes manières, quoi, tu vois. On peut le retrouver comme un limite All-Star, ou peut-être mieux, c'est tout ce que je souhaite pour lui, ou alors un gars plus de devoirs qui va durer 10 ans dans la Ligue, avec un rôle player qui pourra faire beaucoup de choses sur le terrain, quoi.
Et enfin, pour finir, notre question rhétorique, j'ai envie de dire, est-ce qu'on y croit en Renaud Landon, Manu, et dans quelle mesure surtout?
Moi, j'ai peur. Parce que je me dis, en fait, il faut qu'il tombe absolument dans le contexte qu'il faut, qu'il soit chouchouté. Parce qu'autrement, j'ai vrai. Et qu'il ait compris ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est un joueur de rôle, entre guillemets, et qu'il doit répondre à ça. S'il se met dans la tête et il se présente, non, moi je suis un primary option, ça va pas le faire. Et ça peut très vite terminer dans un mec qui stade dans une mauvaise équipe. C'est pas ce qu'on recherche. C'est parce que l'équipe qu'il draft va rechercher chez lui. Donc, je ne sais pas qui draft dans le top 10-15 là. Je n'ai pas le. Tu vois, là en ce moment, ça ne va pas leur arriver. Hein. Mais une équipe comme Sacramento ou Memphis, tu as des équipes qui sont cadrées et qui jouent les playoffs. Je trouve que ce serait un bon fit pour lui. Si malheureusement il termine aux Hornets, ou je ne sais pas où, ou tu vois, où c'est le bordel malheureusement.
C'est le foutoir.
Bah, en fait, il peut très bien devenir James Booknight, tu vois.
À ce point-là, tu penses qu'il disparaît comme ça en un an et demi, terminé?
Dans un mauvais contexte, ça peut. Hein. Ouais. Mais tu vois, s'il termine dans un bon truc, ça peut devenir un. Moi, je lui souhaite. Je ne souhaite pas, mais s'il arrive dans une mauvaise équipe et qu'il se fait malheureusement transférer ou heureusement, tu as une montée en flèche, un changement comme ça de rôle à la Malik Monk, c'est tout ce que je lui souhaite.
Et il y a plein de choses qu'on peut chouchouter chez lui, ouais, comme tu dis.
Ouais. Donc c'est pour moi, s'il a un bon contexte, j'ai envie d'y croire. Si c'est un peu. Donc, il a la bonne mentalité aussi, et ça, malheureusement, c'est des choses que nous, à notre niveau, on ne sait pas. Donc voilà, c'est. Mais je suis mitigé.
Mais en parlant de ce qu'il a dans la tête, balance ta comparaison, parce que tu nous as comparé avec un pétard, quoi. Il faut que tu dises le nom, lâche le nom.
Ouais, bah sur ce que j'ai vu en Ignite, hein, uniquement le Ignite. Moi, je trouve la comparaison d'un J.R. Smith ou un Nate Robinson, où c'est des mecs qui étaient capables de péter des câbles offensivement, quoi. Mais un jour, très très bien luné, ça t'en sort 35. Mais le match d'après, ça te sort un 2 sur 51 au tir, tu vois. J'extrapole, mais ça peut très bien être un mec comme ça, en fait. S'il n'arrive pas à se mettre dans la tête que c'est pas ce joueur-là. Mais je trouvais le. En y repensant, je me dis, tiens, c'est pas. Mais en fait, c'est pas ce qu'il doit être. Mais c'est vraiment la comparaison uniquement sur sa saison Ignite.
Julien, t'as pas entendu sur si tu y croyais ou pas trop comme Manu. Moyennement, disons.
Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis obligé de dire j'y crois. Hein. Trop de qualité à plein niveau. Et voilà, si le shoot commence à rentrer.
Et ben moi, j'ai envie d'y croire un peu aussi, d'autant plus que je crois, c'est l'argument que Hugues, lui, son argument qui ressort à chaque fois, c'est toutes les équipes ont déjà leur superstar, donc il ne sera pas forcément numéro 1. Donc rien que pour ça, j'ai peut-être envie d'y croire. Et que du coup, il ne sera pas surexposé tout de suite et qu'il va devoir apprendre un rôle. Donc du coup, ça va lui aller. En tout cas, on va lui espérer bien
les...
Je te laisserai voir avec Hugues directement. c'est son dada, les boules. Nous, on va se quitter. On va se quitter et on va se dire à la semaine prochaine, évidemment. Prenez soin de vous comme d'habitude. Et puis, on va revenir avec un nouveau prospect. À bientôt, des bisous. Bye bye.
Bye bye. Et puis je voulais envoyer une spéciale dédicace aux basketteurs de Manosque et de Volx. J'en profite parce que ça fait 4 ans que j'ai envie de le faire, je ne l'ai jamais fait. Donc je le fais.
Bon, ça va, une fois en 4 ans, c'est acceptable, mon jus.
Merci Pierre, merci Manu.
Allez, bye bye.